Bien, bonsoir. Merci d'être revenu donc pour cette deuxième séance. Alors, avant de commencer au sens strict, je vais préparer, j'ai pas encore eu le temps de le faire, j'espère le faire la semaine prochaine, une bibliographie, parce que j'ai cité un certain nombre de textes et d'auteurs la fois précédente. Je vais continuer. Donc, voilà, vous trouverez d'ici une bonne semaine, on va dire, une bibliographie complète des textes que je cite au fil des séances sur le site de l'Unipop. Alors j'avais évoqué quelques textes justement la semaine dernière, donc ce livre là qui vient de sortir sous la direction de Frédéric Regard, Féminisme et prostitution dans l'Angleterre du 19e siècle, la croisade de Joséphine Butler, donc avec un certain nombre de textes, une anthologie de textes de Joséphine Butler et de certains de ses contemporains. Un autre livre qui concerne ce que j'ai commencé à traiter la semaine dernière et ce que je vais continuer à traiter aujourd'hui, donc Anne-Marie Capelli, Sublime Croisade, éthique et politique du féminisme protestant 1875-1928, donc où il est question aussi de Joséphine Butler. Et puis, alors qui concerne ce que j'ai traité la semaine dernière et ce que je vais traiter aussi aujourd'hui à propos du réglementarisme et de l'abolitionnisme. Donc j'ai commis ce bouquin là qui est sorti récemment, qui s'appelle La fin du tapin, sociologie de la croisade pour l'abolition de la prostitution. Le titre est de l'éditeur. Mais bon, il y avait pire avant. Donc j'ai consenti à celui-là. Et donc aux éditions François Bourin. Alors je vais reprendre, hein, comme prévu, je m'étais arrêté un petit peu au milieu je vais reprendre le fil, en tout cas, de la généalogie des termes des débats contemporains sur la prostitution. Donc pour rappel, brièvement, la semaine dernière, on a vu comment, au tournant des 18e et 19e siècles, s'était inventée une réglementation administrative de la prostitution qui était à la fois destinée à prévenir le scandale public et les risques de contamination par les maladies vénériennes qui sont inhérentes à cette activité, mais aussi plus globalement à préserver l'ordre social et sexuel bourgeois contre la diffusion des sexualités dangereuses. Et puis on a vu également, on a commencé à voir comment cette réglementation, hein, organisée, centrée autour de la maison close, avait commencé à être contestée à partir des années 1860, tout d'abord en Angleterre, où s'est constitué, donc dans la petite bourgeoisie protestante, un mouvement qui a revendiqué l'abolition de la réglementation, donc d'où son autodésignation comme abolitionniste. Et j'avais terminé en signalant que ce mouvement abolitionniste était tiraillé entre deux pôles, un pôle progressiste et féministe qui condamne les inégalités de traitement, on va dire, en matière de mœurs entre hommes et femmes, et puis un pôle davantage puritain et conservateur. Alors, faut se rendre compte aussi que ces deux pôles peuvent coexister chez les mêmes personnes, hein, qui à la fois sont un peu féministes, mais aussi un peu sur le plan des mœurs pas très ont des opinions qui seraient pas celles qu'on irait aujourd'hui. Je suis tombé là tout à l'heure sur en feuilletant à nouveau ce bouquin là, donc celui de Capelli, Sublime Croisade, sur une citation d'un abolitionniste du début du XXe siècle qui écrit, voilà, alors je le cite, hein, « La femme, comme être humain, a droit à son émancipation intégrale dont le premier élément indispensable est d'être maîtresse de sa sexualité. La femme a un droit d'être avant de devenir la servante de l'évolution de l'espèce par la procréation. La femme a droit au libre choix de la maternité ou de la chasteté. » Voilà, il faut le temps que vous voyez toutes les applications, mais à la fois on est pour l'égalité, etc., n'empêche que l'idée d'une sexualité féminine qui serait orientée vers autre chose que la maternité est tout bonnement impensable. Donc, pour vous mettre un peu dans le bain des représentations de ces gens-là à leur époque, hein, il faut évidemment contextualiser historiquement. Et puis, j'avais conclu la séance dernière en indiquant que les abolitionnistes, donc emmenés par leur leader Joséphine Butler, avaient triomphé en Angleterre en 1883, ce qui allait les amener non pas à interrompre leur combat, mais à le continuer au plan international. Et ce qui va surtout favoriser cette internationalisation de l'abolitionnisme, ça va être à partir de 1881, le scandale de la traite des Blanches. Alors, premier scandale qui éclate donc en 1881, on découvre que des Anglaises, parmi lesquelles une mineure, vierge, ont été transférées en Belgique pour travailler dans un bordel de Bruxelles, et que non seulement la police belge a laissé faire, mais qu'elle participe à l'organisation de ce qui est désigné comme un trafic. Alors, de fait, ça a un retentissement énorme en Angleterre, mais de fait, on s'aperçoit que le scandale est un petit peu gonflé, c'est qu'effectivement, il y avait une jeune femme mineure, parce que âgée de moins de 21 ans, qui était qui savait pas ce qui se tramait pour elle, mais les autres étaient des prostituées déjà en Angleterre. Donc voilà, donc il y a bien quelque chose de problématique, mais c'est pas des groupes immenses de jeunes femmes innocentes qui sont forcées à la prostitution. C'est des prostituées anglaises qui vont se prostituer en Angleterre parce que, dans la logique, ça fonctionne, ça rapporte plus. Alors, ce scandale, il va redémarrer 3 ans plus tard quand un journaliste qui s'appelle William Stead, ou Stead, je sais pas, S-T-E-A-D, va publier une enquête à sensation dans laquelle il révèle qu'il est possible en Angleterre d'acheter des jeunes filles vierges pour les livrer à la prostitution, et donc qu'il y aurait un véritable commerce international de jeunes filles. Alors l'émotion publique est considérable, il y a des manifestations monstres à Londres, et le gouvernement se dépêche d'augmenter l'âge de la majorité sexuelle, mais surtout il y a un thème qui est lancé, qui va faire florès, qui est donc celui de la traite des blanches, par référence évidemment à la traite des esclaves noirs. Et j'avais indiqué que le mouvement anti-esclavagiste était une référence, était un précurseur pour les abolitionnistes. Alors, ce thème de la traite des blanches, il va poser plusieurs problèmes, dont certains sont apparus d'emblée. Et le premier, c'est que Stead, pour prouver ses dires, lui-même, il a essayé d'acheter une fillette à sa mère pour montrer que c'était possible. Hein? Mais le problème, c'est que la mère a eu des remords et donc elle l'a attaqué en justice. Et donc ce qui est apparu, d'une part, c'était des méthodes pas très morales, mais en plus ça prouvait qu'il avait bidonné son reportage, c'est-à-dire il dénonçait quelque chose qu'il avait lui-même provoqué. Donc ce qui pose quand même en termes d'éthique journalistique un petit problème. L'autre souci qui est identifié par les historiens depuis longtemps, hein, et là je renvoie au travail toujours central d'Alain Corbin, donc les filles de noces, c'est qu'il y avait effectivement une circulation internationale de prostituées, mais que cette circulation internationale ne prenait pas la forme décrite par la traite des blanches. Hein. Il y avait effectivement des migrations de prostituées qui allaient de bordel en bordel dans différents pays. Hein. Ça a été organisé, cette circulation. Il y avait des courtiers qui mettaient en relation des prostituées et des tenanciers de bordel. C'était destiné à renouveler l'offre des établissements de prostitution, hein, parce qu'il ne fallait pas que la clientèle se lasse, en voyant toujours les mêmes prostituées. Ça a circulé, ça s'organisait entre les pays européens, mais également entre les pays européens, les métropoles et leurs colonies, également entre l'Europe et l'Amérique du Sud. Mais les femmes qui étaient ainsi transférées, qui étaient l'objet d'un négoce, faut bien dire ce qui est, n'étaient pas des naïves jeunes filles qui avaient été trompées, c'était toutes déjà des prostituées. Hein. Donc, la figure de l'innocente jeune fille était, et ça les historiens l'ont prouvé depuis longtemps, n'était pas fondée. Ce personnage ne représentait pas l'essentiel des personnes concernées. N'empêche que la dénonciation de la traite des blanches, à laquelle se sont livrés donc les abolitionnistes et Joséphine Butler au premier plan, leur a permis de dénoncer le réglementarisme avec un nouvel argument. Et alors, c'est la faute des maisons closes, c'est parce qu'il existe des maisons closes et que les tenanciers veulent renouveler leur personnel qu'il y a une traite des êtres humains, qu'il y a une traite des prostituées, parce qu'il s'agit une nouvelle fois de renouveler le personnel. Alors, ce thème de la traite, à l'époque, en cette fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, il a dû aussi son succès au fait qu'il rentrait en écho avec un certain nombre d'angoisses sociales de l'époque, notamment des angoisses de dépopulation. Hein, c'est-à-dire, c'est l'idée d'une perte de population qui s'en va, et puis des angoisses de dégénérescence de la race. Hein. Et parce que, une nouvelle fois, c'est la population, la race anglaise, française, qui s'affaiblit en voyant partir des femmes qui étaient plutôt destinées à renouveler, à reproduire cette race. Hein. Et également, par sa dimension internationale, cette question de la traite, elle conforte la xénophobie, et on peut remarquer que dans les dénonciations qui sont faites de la traite et de ses bénéficiaires, ce sont d'une part les étrangers, mais aussi principalement les juifs qui sont visés. Hein. Donc le contexte aussi de l'antisémitisme est important pour comprendre comment cet écho, il est extrêmement important à cette période. Hein. Et j'ai lu récemment un travail sur le Ku Klux Klan aux États-Unis. Le Ku Klux Klan relaye le thème de la traite parce que voilà, ce sont les extérieurs, les juifs, les catholiques dans le cas du Ku Klux Klan qui nourrissent la traite. Et puis cette question de la traite, elle rencontre un écho favorable parce qu'elle correspond à un vieux fond de croyance populaire qu'on retrouve au XVIIIe siècle, notamment dans des travaux qui ont été menés par Jacques Revel et Arlette Farge, mais aussi sous la forme de La rumeur d'Orléans, qui est le titre d'un ouvrage écrit par Edgar Morin en 1969, où il a étudié une rumeur qui s'est développée à Orléans cette année-là, comme quoi les jeunes filles qui essayaient des vêtements dans les cabines d'essayage de commerçants juifs, une nouvelle fois, on retrouve le thème de l'antisémitisme, étaient drogués pour être victimes de la traite des blanches. Hein. Donc on retrouve cette thématique-là comme un vieux fond de croyance populaire. Alors j'en reviens à mes abolitionnistes du tournant du 19e et du 20e siècle. Donc j'avais évoqué cette organisation, la National Vigilance Association, la semaine dernière, hein, cette association qui abolitionniste, mais dans le courant le plus puritain, qui se rebaptise à la toute fin du 19e siècle Bureau international pour la suppression du trafic des femmes et des enfants, et qui organise en juin 1899 un congrès international contre la traite des blanches. Bon. Donc on essaye tout de suite de se donner une dimension internationale qui va se poursuivre 3 ans plus tard par une conférence internationale qui va rassembler à Paris les représentants de 16 États. Hein. Alors, au départ c'est une initiative privée et puis les États s'approprient le dispositif et ces 16 États européens vont élaborer un arrangement international qui est destiné à lutter, je cite, contre la traite des filles mineures et des femmes majeures non consentantes. Et ça va augurer une série de textes internationaux, de conventions concernant la traite des blanches. Et ainsi, en 1910, on va avoir une convention internationale relative à la répression de la traite des blanches. Après la Première Guerre mondiale, sous les auspices de la Société des Nations, en 1921, à Genève va être conclue une convention internationale pour la répression de la traite des femmes et des enfants. La question du consentement disparaît. Et puis, une nouvelle convention en 1933, toujours impulsée par la Société des Nations, qui va condamner tout trafic international de femmes majeures, qu'elles soient consentantes ou non. Alors, toutes ces conventions, et notamment la dernière, elles visent à instaurer des mesures préventives contre la traite. Il s'agit de protéger les femmes qui risquent d'en être victimes. Le problème, c'est que ça aboutit à quoi ? Ça aboutit à restreindre la possibilité pour les femmes de voyager seules internationalement. Hein ? Parce que, dans les représentations de l'époque, une femme seule, par définition, c'est faible et vulnérable. Donc, vaut mieux qu'elle ne voyage pas si elle n'est pas protégée par la présence d'un homme. Hein ? Et je cite Jean-Michel Chaumont, donc un sociologue belge qui a travaillé sur les experts de la Société des Nations, dit que désormais, avec cette convention de 1933, mineures ou majeures, toutes les étrangères seraient réputées incapables et donc traitées comme des irresponsables. Donc on voit comment, dans une logique de protection, en fait on traite les femmes comme des mineures, comme des incapables, qui ont besoin nécessairement de la protection d'un homme si elles veulent voyager. Hein. Donc, sous l'invocation d'une protection, on dresse des barrières à la libre circulation des femmes. Alors, la Société des Nations, elle était engagée en 1937 dans la préparation d'un nouveau texte, hein, encore un. Et puis, il y a la Seconde Guerre mondiale qui éclate, donc les travaux sont interrompus. Mais à la fin de la guerre, on fonde l'ONU à la place de la Société des Nations, qui va reprendre le travail et qui va aboutir en 1949 à une nouvelle convention dont le nom est Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de la prostitution d'autrui, et de l'exploitation de la prostitution d'autrui. Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui. Alors ce texte, il est important, il a un préambule qui stipule, je cite, que la prostitution et le mal qui l'accompagne, à savoir la traite des êtres humains en vue de la prostitution, sont incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne humaine et mettent en danger le bien-être de l'individu, de la famille et de la communauté. Donc prostitution et traite sont indissociables et ce sont deux mots, ce sont deux choses qui sont incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne. Alors l'optique cette fois elle est clairement abolitionniste au sens où toute réglementation ou organisation de la prostitution est interdite. L'article 1er de cette convention prévoit la punition de toute personne qui embauche, entraîne ou détourne en vue de la prostitution une autre personne même consentante. Ou bien toute personne qui exploite la prostitution d'une autre personne même consentante. Donc ça veut dire que organiser un établissement, vous salariez des personnes pour être prostituées, les personnes sont d'accord, c'est interdit. Par la convention. Quand faut-il que l'État en question ait ratifié ce texte et l'ait intégré dans son cadre législatif. Et puis on a un article 6 qui intime aux États, donc ceux qui ratifieront le texte, je cite, d'abroger ou abolir toute loi, tout règlement ou toute pratique administrative selon lesquelles les personnes qui se livrent ou sont soupçonnées de se livrer à la prostitution doivent se faire inscrire sur des registres spéciaux, posséder des papiers spéciaux ou se conformer à des conditions exceptionnelles de surveillance ou de déclaration. Donc ça, voilà, c'est l'abolition du réglementarisme, parce que le réglementarisme, je l'avais expliqué la semaine dernière, c'est le fait d'obliger les prostituées à s'inscrire sur des registres spécifiques, des registres de la prostitution, et de se soumettre à un ensemble de dispositions, notamment s'agissant du contrôle sanitaire. Alors, cette convention, la France l'a ratifiée en 1960 par ordonnance. Après avoir franchi une première étape dans le sens de l'abolitionnisme en 1946, lorsque c'était la première fois depuis la Révolution, j'avais dit qu'à la Révolution on fait silence législatif sur la prostitution. En 1946, la France pour la première fois se dote de textes législatifs explicitement ciblés sur la prostitution. Cette loi de 46 est une première étape, mais seulement partielle, vers l'abolitionnisme. Première étape, parce que le gouvernement décide d'interdire les maisons closes sur le territoire métropolitain, pas dans les colonies. En fait, cette loi, c'est le résultat d'une campagne qui a été menée au niveau municipal, parce que je l'avais dit, les réglementations, elles existent au niveau municipal. Il n'y a pas de cadre national, mais il y a une association abolitionniste qui va mener localement une série de campagnes pour obliger les maires à abolir la réglementation de la prostitution, interdire les maisons closes sur leur territoire. Cette association s'appelle le Cartel d'Action Morale et Sociale. C'est l'héritière d'une autre association qui date d'avant-guerre, qui s'appelle la Ligue de la Moralité Publique. Et ce cartel deviendra célèbre, notamment un peu plus tard, en faisant interdire les œuvres d'Henri Miller et de Boris Vian. Alors, vous allez me dire, oui, mais Marthe Richard, c'est la loi Marthe Richard, c'est ce qui est connu comme tel. Alors, Marthe Richard, elle était conseillère municipale à Paris, et donc elle a fait voter une interdiction des bordels sur le territoire parisien. Donc, voilà, ça se joue d'abord au niveau municipal, mais les termes de cette interdiction valable pour Paris ont été repris par le ministre de la Santé et de la Population de l'époque, Robert Prigent, qui était un homme politique du MRP, donc chrétien-démocrate, dans le champ politique de l'époque. Alors, étape importante vers l'abolitionnisme, on supprime les maisons closes, mais étape partielle, parce qu'immédiatement après, on instaure, le même gouvernement instaure un fichier sanitaire et social de la prostitution, avec toujours pour les prostituées l'obligation de se soumettre à des examens de santé réguliers. Et donc de se faire enregistrer. Et donc c'est ce dernier reste de réglementarisme qui va être éliminé en 1960, avec à l'inverse l'instauration de mesures sociales pour assister et réinsérer les prostituées. hein, j'y reviendrai dans un instant, mais elles ne sont plus considérées comme des vecteurs de maladies vénériennes, ce qu'elles étaient toujours en 1946, mais comme des inadaptées sociales qu'il faut réinsérer. Donc nous sommes depuis 1960 dans un pays abolitionniste, mais je le rappelle au sens initial du terme, au sens de Joséphine Butler et de ses héritières, c'est-à-dire favorable à l'abolition de la réglementation de la prostitution. Il n'y a pas de règlement de la prostitution en France, par exemple en matière d'infections sexuellement transmissibles, où il y a des obligations pour certaines maladies, de déclaration, etc., mais c'est pareil pour les prostituées que pour vous et moi. Et la prostitution, elle est en tant que telle absente du code pénal. Donc elle fait une apparition en 1946, elle disparaît en 1960, et tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Donc, en tant que telle, la prostitution, elle est légale en France. Hein. C'est une activité privée que chacun, chacune est libre d'exercer à sa guise. Alors, libre d'exercer à sa guise avec deux importantes restrictions que j'évoquerai brièvement, parce que sinon ça nous emmènerait trop loin. Elle doit être exercée de manière totalement indépendante. Donc, je renvoie à la convention de l'ONU qui dit on ne doit pas organiser ou exploiter la prostitution d'autrui, c'est interdit. Donc ça, c'est le proxénétisme sous diverses formes. Et puis, ça doit se faire, cette activité, elle doit être exercée sans provoquer de scandale public, c'est-à-dire la répression du racolage. Pas d'atteinte à l'ordre public. Alors, la prostitution, elle est finalement pas si indifférente au regard du droit que on pourrait le croire en se référant seulement à ce que je viens de dire. Les ordonnances de 1960... instaure une liberté de se prostituer, mais dans le même temps, elles sont votées avec un ensemble de textes contre les fléaux sociaux. Dans le même mouvement, alors, parmi les fléaux sociaux, il y a la tuberculose, il y a l'alcoolisme. Alors si vous lisez, j'ai lu les débats parlementaires de l'époque, ça donne lieu à des empoignades assez fabuleuses entre des élus, par exemple, de Bourgogne et du Bordelais. Et notamment le chanoine Kir qui joue un rôle important, parce qu'il est député à l'époque. Fléaux sociaux, tuberculose, alcoolisme, et puis en dernière minute on rajoute l'homosexualité, pour faire bonne mesure. Donc la prostitution, elle est libre d'exercice, mais elle est un fléau social, quand même. C'est une inadaptation sociale. Ce qui fait que la situation française, en matière de prostitution, c'est celle du poisson soluble, dont parlait André Breton dans un de ses poèmes. C'est une activité privée que chacun, chacune est libre d'exercer à sa guise, mais le seul fait d'user de cette liberté atteste d'une altération de son libre arbitre. Et ça appelle un secours adapté, celui que doivent fournir donc les travailleurs sociaux. Et donc les ordonnances prévoient le développement de tout un secteur, tout un dispositif d'action sociale spécialisée qui est destiné à secourir les prostituées et à leur proposer ce qu'on appelait à l'époque un reclassement et qu'aujourd'hui on désignerait comme une réinsertion. Alors initialement, je vais passer un peu vite parce que je prends beaucoup de retard, c'est les pouvoirs publics, c'est les DAS qui devaient assurer ce travail-là, et puis les préfets ont d'autres priorités, et puis on se rend compte qu'il y a déjà des associations qui existent et qui font ça très bien. Alors parmi ces associations préexistantes, il y en a une qui mérite qu'on s'y attarde, c'est l'ONI, qui est fondée en 1946 par un prêtre catholique, le père Talvas. Il fonde d'abord un lieu d'accueil pour les prostituées, et puis il le déplace ensuite en région parisienne. Donc un foyer, puis un atelier de réinsertion par le travail, où elle fabrique des matelas, je ne sais pas si c'était voulu. Talvas, c'est pas n'importe quel secteur du catholicisme français. Il est actif au sein de la mouvance du catholicisme social, spécialement de l'Action catholique ouvrière et de la JOC, la jeunesse ouvrière chrétienne, qui sont des secteurs d'intervention du catholicisme qui ont été initiés dans les années 20-30 pour ramener vers le catholicisme les couches populaires qui se sont laissées séduire par l'athéisme des courants communistes et socialistes. La devise de la JOC, par exemple, c'est « Nous referons chrétiens nos frères ». C'est un courant plus global donc du christianisme social, on en trouve des équivalents côté protestant, qui est intéressant parce que initialement il procède d'une concurrence avec les courants socialistes au sens large, laïcs, anticléricaux, où il s'agit donc d'intervenir auprès des couches populaires pour les regagner vers le catholicisme. Mais en faisant ça, ces chrétiens, qui eux-mêmes venaient souvent des milieux populaires, ont développé une conscience sociale très exacerbée, se sont laissés gagner, on va dire, par une pensée de gauche, par une posture de critique sociale qui a pu parfois être très radicale, qui a pu dans les années 70 être, par exemple, subir l'influence maoïste, ou on a trouvé les expressions, par exemple, au sein de la CFDT dans les années 70, lorsqu'elle était un peu plus combative et autogestionnaire qu'aujourd'hui. Alors, s'agissant plus spécialement du Nid, cette dimension à la fois catholique et ouvriériste donne dans les années 50 quelque chose d'un peu étonnant, un mélange une nouvelle fois de progressisme social et de conservatisme moral, avec par exemple, j'ai beaucoup lu la presse du mouvement du Nid, on trouve des louanges pour un groupe de prostituées qui se sont cotisées pour soutenir des ouvriers en grève. Une conscience sociale forte. Et puis, dans le même temps, un vocabulaire qui est quand même pas très valorisant, où les termes de déchéance, d'arriération affective et morale, assez fréquemment aussi de débilité mentale, se retrouvent pour désigner les prostituées, qui sont décrites avec compassion, mais aussi avec, il faut bien le dire, paternalisme et condescendance. Et puis quant au foyer, la manière, je vais vous donner une citation dont une abolitionniste décrivait l'ambiance en 1954. Elle disait, ambiance familiale, charité débordante, éducation évangélique qui est claire, encourage au bien, reprend avec fermeté, supporte tout avec patience et amour en élevant la personne humaine jusqu'aux horizons divins. Le tout dans un climat de semi-liberté. Alors, vous voyez que la fin était on est quand même c'est pour leur bien, n'empêche que ils font pas ce qu'elles veulent ces prostituées. Alors à l'époque, le Nid se dote d'équipes de missionnaires, c'est le terme qu'ils emploient, qui sont notamment composées de religieuses, qui vont à la rencontre directe des prostituées dans la rue pour leur apporter un réconfort moral et puis leur proposer une réinsertion par le foyer, ce qu'ils appellent le repêchage à l'époque. Alors, comme vous le savez sans doute, le Nid reste aujourd'hui la principale représentante de l'abolitionnisme en France. Alors, quelques mots quand même de son évolution, parce que c'est important. C'est une expérience qui va se diffuser en France, toujours sous la même forme d'équipe de missionnaires et de foyers de réinsertion, avec le soutien des pouvoirs publics qui se disent que les associations sont mieux à même de conduire cette action que la DAS. Alors, les équipes se laïcisent progressivement, puis elles se professionnalisent, et puis en 1971 va venir une scission, c'est-à-dire que les professionnels, justement, ils se reconnaissent un peu moins dans la dimension missionnaire évangélique des origines. C'est aussi des travailleurs sociaux qui ont des diplômes, donc ils veulent faire reconnaître leur professionnalisme. Et donc il y a une scission qui intervient, il y aura d'un côté l'Amicale du Nid, donc une association de professionnels du social, diplômés, des salariés, qui accomplissent les missions qui sont confiées par l'État, et puis le mouvement du Nid, qui lui conserve la vocation, l'identité un peu plus religieuse, et puis qui assure donc un soutien moral auprès des prostituées, avec des bénévoles à la fois laïcs et religieux. Alors, c'est une situation qui aurait pu perdurer si le sida n'était pas apparu au début des années 80. Alors, le sida, c'est une maladie qui va beaucoup gêner les pouvoirs publics parce que c'est une maladie qui touche surtout les homosexuels masculins et les drogués. Et c'est un thème délicat à traiter politiquement. Donc, les pouvoirs publics laissent les associations prendre en charge la prévention et l'accompagnement des malades, avec des associations importantes comme AIDE qui vont se développer. Le problème, c'est que à la fin des années 80, le sida est quand même un objet de préoccupation importante dans la population française, donc l'État ne peut plus rester inactif. Donc une série d'initiatives qui sont prises par le gouvernement, principalement le gouvernement qui se mettra en place à l'issue de la réélection de Mitterrand en 88, avec notamment ce que j'avais évoqué la semaine dernière, l'Agence française de lutte contre le sida, qui va soutenir les initiatives de prévention et soutenir aussi la recherche. C'est comme ça que j'ai fait, avec son soutien, que j'ai fait mes premiers travaux. Alors, les prostituées, évidemment, sont importantes dans cette réflexion parce que le risque de contamination, il augmente statistiquement avec le nombre de contacts sexuels. Donc, des gens pour qui c'est le métier sont concernés. Donc, faut réaliser une prévention qui leur soit spécifique. Alors, les pouvoirs publics vont, pour assurer cette prévention spécifique, se tourner vers ce qui existe déjà. Le problème, c'est que d'une part, les services de la DAS, il y en a très peu. Les préfets ont pas développé ça. Et de toute façon, la tendance est plutôt à leur fermeture. Et puis, d'autre part, les associations issues de l'abolitionnisme sont très réticentes, parce qu'elles se sont historiquement construites contre une définition sanitaire de la prostitution. La prostituée vecteur de maladies vénériennes, et elles se sont construites avec une définition sociale, la prostituée comme inadaptée sociale qu'il faut réhabiliter. Et ils craignent que le sida, ça soit un prétexte pour un retour au réglementarisme. Ce qui n'est pas absurde, parce que, si on se place dans le contexte de la fin des années 80, vous avez le FN, mais aussi des personnalités publiques, politiques, comme Michel Barzac, ancienne ministre de la Santé, qui disent qu'il faut réouvrir les maisons closes et assurer un contrôle sanitaire, un dépistage obligatoire des prostituées. Donc cette réticence des associations abolitionnistes, elle n'est pas totalement absurde. Mais alors du coup, les pouvoirs publics vont appuyer d'autres initiatives, qui pour certaines ont été impulsées par des prostituées qui ont commencé à faire de la prévention auprès de leurs collègues. Des initiatives qui vont prendre la forme d'associations, qui vont se réclamer de la santé communautaire, qui est un cadre d'action qui a été d'abord développé dans la médecine humanitaire, où il s'agit de s'adapter aux formes culturelles propres aux populations auxquelles on s'adresse, et puis s'appuyer sur les formes de sociabilité propres à ces populations. Alors ça va être des associations que j'ai déjà pu citer, comme Kabiria à Lyon, comme le Bus des Femmes à Paris, PAST aussi à Paris, etc. Et des associations comme le NID vont très mal réagir à l'apparition de ces dispositifs, d'une part parce que ça conteste leur monopole sur l'encadrement de la prostitution, ils étaient tout seuls et puis ils sont obligés de partager le territoire avec d'autres, et puis parce que ces associations de prévention du sida ne misent pas sur la réinsertion. Et alors, ce qu'a permis de constater la prévention du sida, c'est que les prostituées sont dans leur majorité dans une situation sanitaire assez effroyable, donc il s'agit d'intervenir un petit peu sur ici et maintenant, en urgence, faire que elles puissent avoir des préservatifs, qu'elles puissent se soigner, la plupart n'ont pas accès à la sécurité sociale, ne connaissent pas les dispositifs de soins. Donc l'horizon de la réinsertion, pourquoi pas, mais c'est pas la priorité. Alors pour les abolitionnistes, c'est un non-sens puisque ça revient à aider les prostituées à mieux se prostituer. Le mouvement du NID va dire que, par exemple, à l'époque, que la meilleure prévention du sida, c'est d'arrêter de se prostituer. Bon. Ce qui est logique, mais qui est peut-être un peu compliqué dans l'immédiat. Et les relations vont être d'emblée très conflictuelles entre la santé communautaire et l'abolitionnisme. Et par exemple, lorsqu'en 93, Kabiria va être lancé à Lyon, donc je l'avais dit, une association avec un camping-car qui va à la rencontre des prostituées, le mouvement du NID écrit un article dans sa revue, à Lyon, l'organisation de la prostitution roule en bus. Alors, organisation de la prostitution, faut l'entendre, c'est une expression qui est dans le code pénal, qui relève du proxénétisme. Au titre aussi de... Donc des choses assez, assez violentes, et c'est une rivalité qui existe toujours, et je dirais elle s'est même exacerbée ces dernières années, précisément autour de la pénalisation des clients, que j'avais évoqué la semaine dernière. Donc l'abolitionnisme, il a été assez bousculé et affaibli par l'apparition de la santé communautaire dans les années 90, aussi parce que cette santé communautaire, elle est porteuse de valeurs d'apparence plus progressistes par son projet de donner la parole aux prostituées qui jusqu'à présent ne pouvaient pas tellement s'exprimer, aussi par un discours innovant sur le sexe. Face au sida, la solution, c'est pas de renoncer à la sexualité, mais c'est de la pratiquer de manière responsable. Et puis, c'est un accompagnement des luttes de reconnaissance des identités marginalisées, avec une cause des prostituées qui accompagne en quelque sorte les revendications de reconnaissance portées par exemple par les homosexuels. C'est le moment aussi où se développe la revendication du Pax, etc. Alors l'abolitionnisme, malgré tout, va reprendre en quelque sorte du poil de la bête dans les années 90, au début des années 90, plutôt à la fin des années 90 par exemple, en bénéficiant de trois éléments favorables. D'une part, Les avancées thérapeutiques font que la prévention du sida disparaît, s'estompe, on va dire, des préoccupations de santé publique. Deuxième point, c'est l'apparition aussi d'une prostitution de jeunes migrantes, alors souvent originaires d'Europe de l'Est, dont la visibilité choque la population. Hein, et les abolitionnistes vont pouvoir s'appuyer sur cet émoi public pour rappeler que la prostitution, c'est inacceptable, que c'est un mal en soi, et puis ils peuvent le faire d'autant plus facilement qu'ils disposent d'un, on va dire, d'un schème préexistant pour sensibiliser l'opinion publique, celui précisément de la traite des blanches, hein, de la traite des êtres humains, désormais, qui était tombé en désuétude, mais qui restait présent dans les têtes. Et puis, troisième élément, c'est la remobilisation du mouvement féministe au milieu des années 90. Alors, d'abord, cette remobilisation, elle se joue autour d'enjeux distincts de la prostitution, hein, principalement la défense de l'avortement et de la contraception. Mais des alliances vont se tisser entre abolitionnistes et féministes, avec quelques personnalités qui vont jouer un rôle important, comme la sociologue Marie-Victoire Louis et la journaliste Florence Monreno. Alors, le féminisme français, il n'avait pas de position très nette sur la prostitution, mais ses courants dominants, et notamment le Collectif National pour le Droit des Femmes, vont se construire une position qui va être l'abolitionnisme. Et dans le même temps, il y aura une espèce d'échange, c'est-à-dire que les abolitionnistes vont s'approprier des thématiques féministes. Donc il va y avoir une coalition et une unification des positions. Ce qui est relativement nouveau du côté abolitionniste, parce que jusqu'aux années 80-90, les positions du mouvement d'unis sur question de mœurs et de famille sont pas forcément les plus progressistes. Hein. On regrette l'augmentation du nombre de divorces, l'homosexualité, c'est quand même un signe d'immaturité psychologique, etc. On interviewe, pour ceux qui connaissent, le Tony Anatrella, qui est un psychanalyste et un prêtre, qui a des positions assez... qui fait la position du Vatican sur l'homosexualité. On le retrouve plus aujourd'hui, hein, non, il est plus... Le mouvement d'Uni a donc évolué, mais c'était pas gagné. Alors, cette trop longue généalogie nous conduit à la situation actuelle avec beaucoup de bouleversements depuis le début du 19e siècle et un cadre de débat qui a beaucoup changé. Premier point, le réglementarisme tel qu'il a été pensé et appliqué jusqu'en 1960, il est définitivement disqualifié. Plus personne ne revendique de forcer les prostituées à s'enregistrer et puis surtout les enjeux sanitaires sont appréhendés autrement. Lorsque le sida est apparu, certains, effectivement, je les ai cités, ont exigé un contrôle sanitaire des prostituées, mais ils ont été vaincus par ceux, et spécialement les médecins, qui ont dit, il faut plutôt la responsabilité individuelle, pas de dépistage obligatoire, c'est inefficace, mais donner le maximum d'informations pour que les gens soient en mesure de décider s'ils vont faire un dépistage ou pas, et qu'ils connaissent les moyens de se prévenir contre la contamination. Donc les approches sanitaires basées sur la contrainte sont disqualifiées. Alors, le terme d'abolitionnisme maintenant, on a vu que ce qui est à l'origine du mouvement, c'est l'opposition au réglementarisme, à des mesures administratives contraignantes. Ce sont ces mesures qu'il convient d'abolir. Et cet abolitionnisme, il a triomphé, je dirais, au niveau international en 1949 avec la Convention de l'ONU et en 1960 en France. Alors, du coup, on pourrait se demander pourquoi les associations abolitionnistes se mobilisent avec autant d'énergie, puisque d'une certaine manière, ils ont gagné en 1960. Et personne, aujourd'hui, n'est en mesure de revenir sur cette victoire. Alors, la réponse, c'est que ce n'est pas le même abolitionnisme, ou en tout cas que l'abolition qu'ils revendiquent n'est pas de la même chose. En 60, il s'agissait de l'abolition de la réglementation. Aujourd'hui, il s'agit de l'abolition de la prostitution elle-même. Ce qui est quand même une différence importante. Mais ce qui entretient la confusion, c'est que ce sont les héritiers revendiqués du premier abolitionnisme, celui de Josephine Butler, contre la réglementation, qui aujourd'hui réclame l'abolition de la prostitution. Et cette abolition de la prostitution, ils vont la revendiquer avec un moyen principal, qui est donc la pénalisation des clients, cette mesure qui est actuellement en débat, en France, après avoir été appliquée en Suède, puis en Norvège et en Islande. Alors, l'idée qui fonde cette revendication, c'est d'une part qu'en s'attaquant à la demande, on va faire péricliter l'offre. Et puis, d'autre part, que la prostitution étant une violence sexiste, ceux qui la commettent, cette violence, c'est-à-dire les clients, doivent être poursuivis et punis. Donc, il s'agit bien d'une interdiction d'avoir recours à la prostitution. Hein, donc, entendu comme une interdiction de commettre une violence sur autrui, si la prostitution est une violence. Alors, les abolitionnistes sont un peu gênés par cette dimension d'interdiction, parce que ça assimile cette mesure à ce qu'on désigne aussi comme du prohibitionnisme. Hein. Mais les abolitionnistes, ils combattent le réglementarisme et officiellement aussi le prohibitionnisme, lorsque il interdit la prostitution en condamnant la prostituée elle-même. Hein. Mais bon, si on y réfléchit bien, condamner le client, ça revient à interdire la prostitution, parce qu'une prostituée qui vend ses services mais que personne n'achète, c'est pas vraiment une prostituée. Hein. Donc, c'est pas la prostituée qui est visée, qui est punie, mais l'activité elle-même devient interdite. Alors, je vais laisser de côté les débats contemporains, mais je vais retenir un point central de cette discussion sur la pénalisation des clients, qui est donc la définition de la prostitution comme une violence sexiste. C'est une définition qui est relativement nouvelle, qui n'a pas été tellement développée par l'abolitionnisme historique, et dont on perçoit, évidemment, si elle n'a pas été développée par les abolitionnistes, c'est parce qu'elle est d'origine féministe. Et l'abolition de la prostitution par la pénalisation des clients, c'est l'aboutissement d'un engagement féministe sur cette question qui est relativement récent et dont je voudrais maintenant aborder les formes et puis surtout les appuis intellectuels. Alors vous êtes peut-être surpris que j'ai pas tant parlé du féminisme jusqu'à présent, alors que c'est un thème, la prostitution, qui peut pas laisser les féministes indifférentes. Hein. Alors j'ai fait mention du féminisme des pionnières de l'abolitionnisme, mais la citation que j'ai faite en commençant a prouvé que c'était quand même pas un féminisme. C'est pas le même féminisme que celui qu'on connaît aujourd'hui en matière de mœurs. C'est pas une raison pour leur dénier ce qualificatif à ces femmes du 19e siècle, parce qu'elles se sont aussi battues pour l'égal accès des femmes à l'éducation et pour le droit de vote. Mais de fait, la réflexion féministe, elle va longtemps délaisser le thème de la prostitution, ou bien quand elle va le traiter, ça va être de manière plutôt détournée, comme un révélateur de la situation des femmes, mais sans penser la prostitution en elle-même. Alors, un des meilleurs exemples de cette manière de traiter la prostitution, c'est un livre fondateur de la réflexion féministe, qui est donc le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, donc publié en 49. Où effectivement elle va consacrer un chapitre du livre aux prostituées, et elle va faire un parallèle avec la prostitution et le mariage, et elle dit pour la prostituée comme pour l'épouse, la sexualité c'est un service, mais la différence qu'elle fait, je cite, la seconde, la femme mariée, est engagée à vie par un seul homme, la première, la prostituée, a plusieurs clients qui la payent à la pièce. Et donc, la prostitution comparée au mariage, elle apparaît comme moins hypocrite et d'une certaine manière comme moins oppressive, puisque la prostituée ne subit la promiscuité masculine que pour un temps limité et pour des actes dont la valeur est clairement mesurée et rémunérée. Alors, elle innove pas tellement Simone de Beauvoir sur ce plan-là, parce que c'est une comparaison entre prostitution et mariage qu'on trouve déjà chez Engels, dans l'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État. C'est aussi une comparaison qu'on va trouver chez d'autres intellectuelles féministes importantes, comme Colette Guillaumin. Mais la prostitution est surtout prétexte, argument pour critiquer le mariage, comme institution patriarcale. Sur le plan aussi du militantisme féministe, en tout cas français, on trouve aussi une même faiblesse de la réflexion, qui se révèle en 1975 lorsque éclate à Lyon la révolte des prostituées qui vont occuper donc l'église Saint-Nizier pour protester contre la répression par la police. Hein. Alors, il y a très longtemps, je crois que c'était mon premier cours à l'UP, j'avais évoqué cet événement, donc je renvoie aux enregistrements qui doivent toujours être sur le site. Je renvoie aussi à mon bouquin Mobilisation de prostituées, parce que j'y avais consacré une part importante. Alors, c'est une mobilisation, une révolte des prostituées qui a été soutenue par le mouvement d'UNI, précisément. Dans un contexte où c'était une section qui était sous influence catholique directe. Hein, le principal animateur, c'était un prêtre du nom de Louis Blanc. Faut pas confondre avec le révolutionnaire républicain. Et puis aussi par un séminariste qui deviendra ensuite célèbre pour son engagement dans les luttes immigrées, Christian Delorme. Mais c'est aussi sous influence un peu gauchiste. Hein. Faut bien le dire, à cette époque-là, le mouvement d'Uni est quand même un peu sous influence. En tout cas, sa section de Lyon. Et c'est donc cette section lyonnaise qui a suggéré aux prostituées d'occuper une église. Et c'est cette section qui a véritablement porté et préparé la mobilisation. Alors les féministes de Lyon n'avaient aucun lien avec les prostituées et elles ont soutenu l'action une fois qu'elle a été lancée. Hein, elles ont apporté un soutien actif, mais en quelque sorte en prenant le train en marche et aussi en s'inscrivant dans une concurrence avec le mouvement d'Uni qui n'était pas forcément ravi de les voir débarquer. Mais surtout les féministes ont soutenu les prostituées contre la répression par cette incarnation du pouvoir patriarcal qu'est la police. Là, il n'y avait pas de souci. Mais sans bien savoir quoi penser de la prostitution elle-même. Hein, et après coup, elles ont dit, c'était peut-être pas clair cette histoire-là, cette révolte, parce que qu'est-ce qu'on soutient, nous ? Est-ce qu'on soutient les revendications des prostituées de continuer à exercer leur activité, mais sans être embêtées par la police, ou est-ce qu'on préférerait que cette activité disparaisse ? Donc ça a suscité a posteriori un certain malaise chez bon nombre de prostituées, de féministes. Alors. Toujours que je fasse des. Il y a un lapsus catastrophique par séance. Alors en fait, pour voir apparaître une première réflexion féministe, je dirais moderne, sur la prostitution, il faut traverser l'Atlantique, il faut attendre 1979 et l'apparition d'un livre d'une sociologue américaine, Kathleen Barry. B-A-2-R-Y, un livre qui sera traduit en français 3 ans plus tard sous le titre « L'esclavage sexuel de la femme ». C'est le même titre en anglais. Alors c'est un livre qui a un retentissement important au niveau international du fait qu'il est construit sur le registre d'une révélation de faits scandaleux, mais qui serait méconnue. Alors c'est pas une enquête sociologique classique avec un travail de terrain, des entretiens systématiques sur une situation donnée qu'on essayerait d'analyser, dont on tirerait les enseignements, mais c'est plus une collection de faits qui ont été glanés par Kathleen Barry un peu partout dans le monde, en s'appuyant sur des sources secondaires, notamment la presse et puis des rapports d'institutions internationales ou d'organisations non gouvernementales. Et avec cette démarche, Barry, elle va redécouvrir la littérature du premier abolitionnisme. Hein. Elle va rendre un hommage appuyé à Josephine Butler et à ses amis, et puis elle va redécouvrir l'enquête de William Stead, qu'elle va citer comme une preuve de l'existence ancienne de la traite des êtres humains. Et elle s'appuie sur des reportages, sur différentes données institutionnelles pour affirmer que ce type de trafic d'êtres humains existe toujours, qu'il y a encore, par exemple, des recruteurs qui hantent les gares routières ou les gares ferroviaires, pour enjôler et enrôler des jeunes fugueuses et puis finalement les contraindre à faire le trottoir. Donc elle va retrouver, Kathleen Barry, des schèmes d'appréhension de la prostitution qui sont ceux de l'abolitionnisme historique, mais elle va quand même innover et son propos va devenir véritablement féministe lorsqu'elle va rapprocher la prostitution d'autres formes d'oppression subies par les femmes. Et je cite par exemple, un grand nombre de femmes et de jeunes filles font l'expérience de l'esclavage sexuel sans même sortir de chez elles. Dans leur cas, c'est la maison qui tient lieu de bordel. Et dans son analyse, elle va incriminer le patriarcat qui opérerait par une colonisation sexuelle des femmes. Et c'est le patriarcat qui serait moteur dans un asservissement spécifique dans la prostitution, dont la prostitution ne serait qu'une forme particulière, une nouvelle fois. Je cite, l'esclavage sexuel des femmes, sous toutes ses formes, est un mécanisme destiné à les dominer grâce à une éthique qui veut que le pouvoir revienne au sexe mâle et qui utilise l'asservissement, directement ou indirectement, sous forme de menaces suspendues au-dessus de chaque femme. Et donc, Barry, elle se réfère aux abolitionnistes, elle dit, ils avaient déjà tout vu, d'une certaine manière, mais elle leur reproche de restreindre la prostitution à une affaire individuelle, sans prendre en compte ses fondements structurels, d'une certaine manière. L'abolitionnisme tel qu'il est formulé dans la Convention de 1949, et donc dans le droit français, il reconnaît d'une certaine manière en creux, implicitement, que la prostitution, elle peut être acceptée à partir du moment où elle relève d'un choix non contraint. Alors, considère que c'est rare, voire exceptionnel, mais l'éventualité d'une prostitution libre n'est pas réfutée, au moins en droit. Alors, Barry, elle s'oppose à cette conception parce que elle considère que même en l'absence de contraintes directes d'un souteneur, les fragilités psychologiques ou l'extrême dénuement économique au principe de la prostitution font qu'elle ne peut être envisagée comme l'aboutissement d'un véritable choix. Et donc elle propose à l'inverse une appréhension systémique de la prostitution qui ne peut pas être séparée du patriarcat, qui envisage ce patriarcat, l'usage sexuel des femmes comme un droit masculin. Et donc pour Barry, qu'elle soit libre ou forcée, toute prostitution relève d'une marchandisation du corps des femmes qui est mise en vente pour le plaisir des hommes. Et donc dans cette perspective, c'est dans son essence même que la prostitution est une violence sexiste, et donc, conclusion, c'est cette violence qu'il s'agit d'abolir, et pas simplement sa réglementation, qui ne suffit pas. Alors c'est une réflexion qui est fondatrice en ce sens qu'elle propose une analyse et des arguments qui sont au cœur de la réflexion contemporaine sur le sujet. On voit aussi que c'est une réflexion qui est importante pour la liaison entre l'abolitionnisme et le féminisme. Barry s'appuie sur l'abolitionnisme historique, mais elle le dépasse d'une certaine manière en préconisant l'abolition de la prostitution elle-même, qui serait en tant que telle intolérable. Alors que les abolitionnistes s'étaient toujours refusés jusqu'à présent à viser l'abolition de la prostitution. Ils disaient on n'est pas assez naïf pour croire qu'on va abolir ça. Alors, c'est aussi une réflexion qui va connaître des prolongements et des développements au sein du féminisme américain au travers de ce qu'on va appeler les sex wars, c'est-à-dire la guerre des sexes, ce qu'on peut traduire en français sous ce terme. Alors, c'est une polémique qui est un petit peu annexe à mon propos, mais que je vais quand même mentionner parce que les enjeux sont étroitement liés à ce qui nous occupe dans ce cours. Donc c'est une polémique interne à la réflexion féministe américaine qui éclate au début des années 80, qui ne va pas tant concerner la prostitution que la pornographie. Et c'est un débat dans lequel va s'engager un courant désigné comme celui des féministes radicales autour de personnalités comme la juriste Catherine MacKinnon et l'essayiste Andrea Dworkin. Alors MacKinnon, Mac, M-A-C, K-I-2-N-O-N et Dworkin, D-W-O-R-K-I-N. Alors, c'est des auteurs qui vont structurer leur position autour de l'idée que la sexualité est la principale sphère d'exercice du pouvoir masculin. Et la domination masculine, elle procéderait par l'expropriation des femmes de leur sexualité, qui serait aliénée mais au sens propre. C'est-à-dire que dans le cadre du patriarcat, les femmes n'ont pas de sexualité propre. Cette sexualité, elle est asservie aux hommes qui, de leur côté, envisagent la sexualité comme l'expression pratique de leur pouvoir, ce qui fait que la sexualité masculine, elle est intrinsèquement imprégnée de violence. Et la pornographie, ça sera en quelque sorte une cristallisation de cette logique d'oppression des femmes, puisqu'elle agirait à la fois au niveau de la pratique et au niveau des imaginaires. La production de pornographie serait, en tant que telle, en elle-même, de la violence, puisqu'elle suppose que des femmes se livrent devant la caméra à des actes sexuels qu'elles ne désirent pas, mais auxquels elles sont forcées par la contrainte économique ou par la violence. Et elle agirait aussi sur les consciences masculines, mais aussi féminines, comme socialisation, apprentissage et légitimation d'une sexualité conçue sur un mode strictement inégalitaire, qui présupposerait donc la soumission des femmes à des désirs masculins oppressifs et violents. Et donc la porno, ça fabriquerait des fantasmes de domination sexuelle qui seront mis en acte par les hommes et auxquels les femmes seraient tenues de se soumettre pour être conformes à la norme de la conduite sexuelle féminine. Et d'une certaine manière, certaines ont pu dire que la porno c'était la théorie et le viol c'était la pratique. Alors la conclusion, dans une situation d'oppression aussi englobante, c'est que les femmes doivent s'extraire de la sexualité telle qu'elle est définie et pratiquée par les hommes parce qu'elle serait intrinsèquement inégalitaire et violente. Alors, c'est des positions qui ont suscité les critiques d'un autre courant du féminisme américain, j'ai dit ça fait polémique, alors, courant des féministes dites libertaires ou bien pro-sexe. Alors, ces féministes, elles vont signaler plusieurs difficultés. La première, c'est le refus des féministes radicales de distinguer ce qui relève des fantasmes de ce qui relève de la pratique. Les libertaires vont dire c'est pas parce qu'on consomme de la porno qu'on commet des viols, de même que c'est pas parce qu'on lit des romans policiers qu'on commet des meurtres. Les liens entre fantasmes et pratiques sexuelles sont plus complexes que cette vision univoque et peuvent être beaucoup plus riches. Ça, j'y reviendrai la semaine prochaine. Ensuite, elles vont reprocher aux radicales d'entretenir une conception misérabiliste des femmes qui, certes, subissent les inégalités de genre. Ça, les libertaires, elles remettent pas en cause la domination masculine. Mais on peut pas non plus réduire les femmes au statut d'éternelles victimes qui seraient condamnées à vivre la sexualité sur le seul mode de la violence subie. Hein. Et la preuve en serait, selon toujours les libertaires, que les principales concernées ne se considèrent pas nécessairement comme des victimes. Hein. Il y a des prostituées, des actrices porno, qui prétendent au contraire avoir choisi leur activité et trouver certaines formes de satisfaction économique, mais y compris aussi sexuelle. Hein. Alors, chaque camp sollicite d'une certaine manière les témoignages qui lui conviennent. Hein. Alors les radicales vont beaucoup mobiliser l'histoire de l'actrice qui était célèbre du film Gorge Profonde, qui a fini par se suicider, qui avait été effectivement, semble-t-il, victime de pression et de contraintes pour tourner ce film. Et puis à l'inverse, les libertaires vont mettre en avant le personnage de l'actrice de porno qui va dénombrer tous les orgasmes qu'elle a eus devant la caméra. Alors, les radicales, elles vont plutôt invoquer le fait que les pratiques transgressives, comme la porno, le sadomasochisme, l'homosexualité, la prostitution, au contraire, ça peut être des voies de découverte et d'émancipation sexuelle pour les femmes, par lesquelles elles peuvent accéder à une véritable libération en expérimentant des formes de sexualité que, précisément, le carcan des normes sexistes leur interdit. Hein. Et elles vont pointer à ce propos les alliances contre nature que les féministes radicales ont tissées dans leur combat contre la prostitution et la pornographie, des alliances avec la droite religieuse américaine, la plus conservatrice et réactionnaire. Hein. Et parce que la dénonciation de la pornographie à laquelle vont se livrer les radicales, ce qu'elles envisagent comme une incitation au viol, c'est associé à l'opposition de la droite religieuse à la pornographie, mais là pour des raisons de moralité, c'est pas bien de mettre en scène de la sexualité. Et de fait, les radicales américaines abolitionnistes sur le plan de la prostitution se sont effectivement ces dernières années coalisées avec la droite religieuse. Notamment, elles ont soutenu George Bush et elles l'ont soutenu dans son refus de subventionner les associations de lutte contre le sida avec l'argument que distribuer des préservatifs, c'est encourager la prostitution. Alors, c'est les abolitionnistes féministes radicales américaines. Hein, situation et configuration est différente en France. Alors, il y a une notion qui est importante dans le raisonnement des libertaires, c'est celle de consentement. C'est-à-dire que, pour elles, toute pratique sexuelle est légitime à partir du moment où les partenaires sont consentants, y compris des pratiques qui relèveraient de la violence et de la domination, comme le sadomasochisme. Dans cette optique, on ne peut pas, on ne doit pas parler à la place des autres, qui sont à l'inverse les mieux placés pour dire ce qu'elles éprouvent ou recherchent dans tel ou tel type de pratique. Donc on ne peut pas, comme le font pourtant les radicales, prétendre que toute prostitution ou toute pornographie est une violence, parce que ça revient à prétendre savoir mieux que les premières intéressées ce qu'il en est. Alors que ce sont elles qui en ont une expérience directe. Alors, ce à quoi les radicales, elles répondent que le consentement, c'est pas suffisant, parce que le consentement, il peut être vicié. Et il suffit pas de demander leur avis aux intéressés pour savoir si elles sont ou non consentantes. Hein. Il faut, selon elles, les radicales, retenir l'hypothèse de l'aliénation des consciences, qui peut produire des consentements apparents à des situations de domination et d'oppression. Hein, prostituée peut se dire consentante et heureuse de faire ce qu'elle fait, mais en fait elle peut être manipulée par des proxénètes ou soumise aux effets de traumatismes psychologiques qui ont vicié son rapport à la sexualité. D'où l'importance qui est accordée dans le discours des radicales aux interprétations psychologiques de la prostitution, hein, qui vont insister sur le fait qu'une part conséquente de prostituée aurait subi des viols et des incestes dans leur enfance. Et donc, une des conséquences, ça aurait été que la sexualité est devenue quelque chose de problématique, Et donc ça les conduirait à détourner la sexualité de sa vocation de plaisir pour en faire un moyen de gain économique. Hein. Alors notamment parmi les auteurs fréquemment cités dans ce courant, la psychologue Melissa Farley, F-A-R-L-E-Y, qui compte parmi les auteurs influentes, qui vont justifier leur opposition à la prostitution par le fait que, selon elle, une écrasante majorité des prostituées ont été et sont toujours victimes de violences, hein, et que leur engagement dans cette activité, c'est à la fois la conséquence et la cause d'un stress post-traumatique qui serait comparable à ceux qu'on repère chez les victimes de viols ou de torture. D'où sa conclusion que la prostitution en elle-même est une violence qui relève de la réitération d'un traumatisme. Alors Katzenberry, elle n'a pas été seulement une intellectuelle importante pour le ralliement d'effectifs importants de féministes à l'opposition à la prostitution, ça a été aussi une militante. Hein. Elle a fondé en 88 la Coalition Against Trafficking in Women, la Coalition contre la traite des femmes, qui a été reconnue comme une ONG représentative auprès de l'ONU et qui est active au niveau international comme une organisation experte sur la traite des êtres humains et la prostitution. Et donc, cette organisation, cette coalition, elle défend très logiquement une définition de la prostitution comme une violence contre les femmes qui est assimilable au viol, qui est associée à la pornographie, qui est indissociable du tourisme sexuel et de la traite des êtres humains, et qui va définir notamment les prostituées comme des survivantes de la prostitution. Et donc c'est dans la continuité des analyses de Katherine Barry, parce qu'on va reprendre dans cette organisation la plupart des schèmes développés par l'abolitionnisme historique, et notamment donc ce thème de la traite des êtres humains dont les victimes sont dépeintes sous les traits de ce que ma collègue Mylène Ajaxic appelle une figure idéale de la victime de la traite, hein, qui est caractérisée par son jeune âge, sa naïveté, son ignorance, son faible niveau d'éducation, ce qui explique qu'il soit si facile aux trafiquants de l'abuser, et puis sa pauvreté, et puis sa passivité qui font que c'est une proie facile pour les proxénètes et les trafiquants, mais ce qui aboutit à une vision sexuée de la migration. C'est-à-dire que dans ce discours-là, lorsqu'on parle de migration, les femmes subissent la migration alors que les hommes sont actifs dans un parcours migratoire. Et puis, cette coalition, elle s'est depuis plusieurs années faite la promotrice auprès des États du modèle nordique, c'est-à-dire le modèle suédois de pénalisation des clients des prostituées, donc je l'ai dit, qui vise à abolir la prostitution par tarissement de sa demande. Et la représentante française de cette coalition, Malka Markovic, a joué de ce point de vue-là, dans les années 2000, un rôle important de lobbying auprès des pouvoirs publics et des autres associations abolitionnistes pour qu'ils se rallient à cette option de la pénalisation des clients. Hein. Et notamment, je l'ai évoqué, le mouvement d'Uni n'a rejoint cette option de la pénalisation des clients que relativement récemment. Alors, et bien évidemment, j'ai pas fait le tour des positions féministes hostiles à la prostitution. Hein. Alors, en premier lieu, parce que j'ai pris beaucoup de retard sur le planning initial. On peut considérer éventuellement que les positions que j'ai évoquées, hein, qui sont défendues par les radicales, sont précisément un peu radicales, un peu schématiques, en tout cas un petit peu bulldozer, quoi. C'est du tout ou rien. Hein. La prostitution, dans son essence même, est une violence. Et donc la semaine prochaine, je présenterai, je discuterai des perspectives, je pense, un peu plus nuancées, peut-être même un peu plus constructives. Voilà. Je m'arrête là et je vous donne la parole. Merci.